Histoire de Gil Blas de Santillane, livre 7, chapitre 12. Gil Blas va loger dans un hôtel garni. Il fait connaissance avec le capitaine Chinchilla. Quel homme c'était que cet officier et quelle affaire l'avait amené à Madrid. D'abord que je fus à Madrid, j'établis mon domicile dans un hôtel garni où demeurait, entre autres personnes, un vieux capitaine qui, des extrémités de la Castille nouvelle, était venu solliciter à la cour une pension qu'il croyait n'avoir que trop méritée. Il s'appelait Don Annibal de Chinchilla. Ce ne fut pas sans étonnement que je le vis pour la première fois. C'était un homme de 60 ans, d'une taille gigantesque et d'une maigreur extraordinaire. Il portait une épaisse moustache qui s'élevait en serpentant des deux côtés jusqu'aux tempes. Outre qu'il lui manquait un bras et une jambe, il avait la place d'un œil couverte d'un large emplâtre de taffetas vert, et son visage en plusieurs endroits paraissait balafré. À cela près, il était fait comme un autre. De plus, il ne manquait pas d'esprit, et moins encore de gravité. Il poussait la morale jusqu'au scrupule, et se piquait surtout d'être délicat sur le point d'honneur. Après avoir eu avec lui 2 ou 3 conversations, il m'honora de sa confiance. Je sus bientôt toutes ses affaires. Il me conta dans quelles occasions il avait laissé un œil à Naples, un bras en Lombardie et une jambe dans les Pays-Bas. Ce que j'admirais dans les relations de bataille et de siège qu'il me fit, c'est qu'il ne lui échappa aucun trait de fanfaron, pas un mot à sa louange. Quoique je lui eusse volontiers pardonné de vanter la moitié qui lui restait de lui-même pour se dédommager de la perte de l'autre. Les officiers qui reviennent de la guerre sains et saufs ne sont pas tous si modestes. Mais il me dit que ce qui lui tenait le plus au cœur, c'était d'avoir dissipé des biens considérables dans ses campagnes, de sorte qu'il n'avait plus que 100 ducats de rente, ce qui suffisait à peine pour entretenir sa moustache, payer son logement et faire écrire ses placés. « Car enfin, seigneur cavalier, ajouta-t-il en haussant les épaules, j'en présente, Dieu merci, tous les jours sans qu'on y fasse la moindre attention. Vous diriez qu'il y a une gageure entre le premier ministre et moi et que c'est à qui de nous deux se lassera, moi d'en donner ou lui d'en recevoir. J'ai aussi l'honneur d'en présenter souvent au roi. Mais le curé ne chante pas mieux que son vicaire, et pendant ce temps-là, mon château de Chinchilla tombe en ruine, faute de réparation. « Il ne faut désespérer de rien, » dis-je alors au capitaine. « Vous n'ignorez pas que les grâces de la cour se font ordinairement un peu attendre. Vous êtes peut-être à la veille de voir payer avec usure vos peines et vos travaux. Je ne dois pas me flatter de cette espérance, » répondit Don Annibal. Il n'y a que 3 jours que j'ai parlé à un des secrétaires du ministre, et si j'en crois ses discours, je n'ai qu'à me tenir gaillard. Et que vous a-t-il donc dit? Repris-je, seigneur officier. Est-ce que l'état où vous êtes ne lui a pas paru digne d'une récompense? Vous en allez juger, repartit Chinchilla. Ce secrétaire m'a dit tout net, seigneur gentilhomme, ne vantez pas tant votre zèle et votre fidélité. Vous n'avez fait que votre devoir en vous exposant au péril pour votre patrie. La seule gloire qui est attachée aux belles actions les paye assez et doit suffire principalement à un Espagnol. Il faut donc vous détromper, si vous regardez comme une dette la gratification que vous sollicitez. Si on vous l'accorde, vous devrez uniquement cette grâce à la bonté du roi, qui veut bien se croire redevable à ceux de ses sujets qui ont bien servi l'État. « Vous voyez par là, poursuivit le capitaine, que j'en dois encore de reste et que j'ai bien la mine de m'en retourner comme je suis venu. » On s'intéresse pour un brave homme qu'on voit souffrir. Je l'exhortai à tenir bon. Je m'offris à lui mettre au net gratuitement ses placés. J'allai même jusqu'à lui ouvrir ma bourse et à le conjurer d'y prendre tout l'argent qu'il voudrait. Mais il n'était pas de ces gens qui ne se le font pas dire 2 fois dans une pareille occasion. Tout au contraire, se montrant très délicat là-dessus, il me remercia fièrement de ma bonne volonté. Ensuite, Il me dit que pour n'être à charge à personne, il s'était accoutumé peu à peu à vivre avec tant de sobriété que le moindre aliment suffisait pour sa subsistance, ce qui n'était que trop véritable. Il ne vivait que de ciboules et d'oignons. Aussi n'avait-il que la peau et les os. Pour n'avoir aucun témoin de ses mauvais repas, il s'enfermait ordinairement dans sa chambre pour les faire. J'obtins pourtant de lui, à force de prières, que nous dînerions et souperions ensemble. Et, trompant sa fierté par une ingénieuse compassion, je me fis apporter beaucoup plus de viande et de vin qu'il n'en fallait pour moi. Je l'excitai à boire et à manger. Il voulut d'abord faire des façons, mais enfin il se rendit à mes instances. Après quoi, devenant insensiblement plus hardi, il m'aida de lui-même à rendre mon plat net et à vider ma bouteille. Lorsqu'il eut bu 4 ou 5 coups et réconcilié son estomac avec une bonne nourriture, « En vérité, me dit-il d'un air gai, vous êtes bien séduisant, seigneur Gil Blas. Vous me faites faire tout ce qu'il vous plaît. Vous avez des manières engageantes et qui m'ôtent jusqu'à la crainte d'abuser de votre humeur bienfaisante. » Mon capitaine me parut alors si défait de sa honte que, si j'eusse voulu saisir ce moment-là pour le presser encore d'accepter ma bourse, je crois qu'il ne l'aurait pas refusé. Je ne le remis point à cette épreuve. Je me contentai de l'avoir fait mon commensal et de prendre la peine non seulement d'écrire ses placets, mais de les composer même avec lui. À force d'avoir mis des homélies honnêtes, j'avais appris à tourner une phrase. J'étais devenu une espèce d'auteur. Le vieil officier, de son côté, se piquait de savoir bien coucher par écrit. De sorte que, travaillant tous deux par émulation, nous faisions des morceaux d'éloquence dignes des plus célèbres régents de Salamanque. Mais nous avions beau l'un et l'autre épuiser notre esprit à semer des fleurs de rhétorique dans ses placets, c'était, comme on dit, semer sur le sable. Quelques tours que nous prissions pour faire valoir les services de Don Hannibal, la cour n'y avait aucun égard, ce qui n'engageait pas ce vieil invalide à faire l'éloge des officiers qui se ruinent à la guerre. Dans sa mauvaise humeur, il maudissait son étoile et donnait au diable Naples, la Lombardie et les Pays-Bas. Pour surcroît de mortification, il arriva un jour qu'à sa barbe, un poète produit par le duc d'Albe, ayant récité devant le roi un sonnet sur la naissance d'une infante, fut gratifié d'une pension de 500 ducats. Je crois que le capitaine mutilé en serait devenu fou si je n'eusse pris soin de lui remettre l'esprit. « Et qu'avez-vous ? » lui dis-je en le voyant hors de lui-même. « Il n'y a rien là-dedans qui doit vous révolter. » Depuis un temps immémorial, les poètes ne sont-ils pas en possession de rendre les princes tributaires de leurs muses? Il n'est point de tête couronnée qui n'ait quelques-uns de ces messieurs pour pensionnaires. Et entre nous, ces sortes de pensions, étant rarement ignorées de l'avenir, consacrent la libéralité des rois, au lieu que les autres qu'ils font sont souvent en pure perte pour leur renommée. Combien Auguste a-t-il donné de récompenses? Combien a-t-il fait de pensions dont nous n'avons aucune connaissance? Mais la postérité la plus reculée saura comme nous que Virgile a reçu de cet empereur plus de 200 000 écus de bienfaits. Quelque chose que je puisse dire à Don Hannibal, le fruit du sonnet lui demeura sur l'estomac comme un plomb, et ne pouvant le digérer, il se résolut à tout abandonner. Il voulut néanmoins auparavant, pour jouer de son reste, présenter encore un placet au duc de Lerme. Nous allâmes, pour cet effet, tous deux chez ce premier ministre. Nous y rencontrâmes un jeune homme qui, après avoir salué le capitaine, lui dit d'un air affectueux « Mon cher et ancien maître, est-ce vous que je vois? Quelle affaire vous amène chez monseigneur? Si vous avez besoin d'une personne qui ait du crédit, ne m'épargnez pas, je vous offre mes services. » « Comment donc, Pédrille ? » lui répondit l'officier. « À vous entendre, il semble que vous occupiez quelque poste important dans cette maison. »« Du moins, répliqua le jeune homme, y ai-je assez de pouvoir pour faire plaisir à un honnête hidalgo comme vous ?»« Cela étant, reprit le capitaine avec un sourire. « J'ai recours à votre protection. »« Je vous l'accorde, » repartit Pédrille. « Vous n'avez qu'à m'apprendre de quoi il est question, et je promets de vous faire tirer pied ou aile du premier ministre. » Nous n'eûmes pas sitôt mis au fait ce garçon si plein de bonne volonté qu'il demanda où demeurait Don Annibal. Puis, nous ayant assuré que nous aurions de ses nouvelles le jour suivant, il disparut sans nous instruire de ce qu'il prétendait faire, ni même nous dire s'il était domestique du duc de Lerme. Je fus curieux de savoir ce que c'était que ce Pédrille, qui me paraissait si éveillé. « C'est, me dit le capitaine, un garçon qui me servait il y a quelques années, et qui, me voyant dans l'indigence, m'y laissa pour aller chercher une meilleure condition. Je ne lui sais point mauvais gré de cela. Il est fort naturel de changer pour être mieux. C'est un drôle qui ne manque pas d'esprit, et qui est intrigant comme tous les diables. » Mais malgré tout son savoir-faire, je ne compte pas beaucoup sur le zèle qu'il vient de témoigner pour moi. « Peut-être, lui dis-je, ne vous sera-t-il pas inutile? Et s'il appartenait par exemple à quelqu'un des officiers principaux du duc, il pourrait vous rendre service? Vous n'ignorez pas que tout se fait par brigue et par cabale chez les grands, qu'ils ont des domestiques favoris qui les gouvernent, et que ceux-ci, à leur tour, sont gouvernés par leurs valets. » Le lendemain, dans la matinée, nous vîmes arriver Pédrille à notre hôtel. « Messieurs, nous dit-il, si je ne m'expliquais pas hier sur les moyens que j'avais de servir le capitaine de Chinchilla, c'est que nous n'étions pas dans un endroit qui me permît de vous faire une pareille confidence. De plus, j'étais bien aise de sonder le guet avant que de m'ouvrir à vous. « Sachez donc que je suis le laquais de confiance du seigneur Don Rodrigue de Calderon, premier secrétaire du duc de Lerme. Mon maître, qui est fort galant, va presque tous les soirs souper avec un rossignol d'Aragon qu'il tient en cage dans le quartier de la cour. C'est une jeune fille d'Albarazin, des plus jolies. Elle a de l'esprit et chante à ravir. Aussi se nomme-t-elle la Signora Sirène. » Comme je lui porte tous les matins un billet doux, je viens de la voir. Je lui ai proposé de faire passer le seigneur Don Annibal pour son oncle et d'engager par cette supposition son galant à le protéger. Elle veut bien entreprendre cette affaire. Outre le petit profit qu'elle y envisage, elle sera charmée qu'on la croie nièce d'un brave gentilhomme. » Le seigneur de Chinchilla fit la grimace à ce discours. Il témoigna de la répugnance à se rendre complice d'une espièglerie, et encore plus à souffrir qu'une aventurière le déshonorât en se disant de sa famille. Il n'en était pas seulement blessé par rapport à lui. Il voyait, pour ainsi dire, là-dedans, une ignominie rétroactive pour ses aïeux. Cette délicatesse parut hors de saison à Pédrille, qui en fut choqué. « Vous moquez-vous ? S'écria-t-il, de le prendre sur ce ton-là. Voilà comme vous êtes fait, vous autres nobles à chaumière. Vous avez une vanité ridicule. Seigneur cavalier, poursuivit-il en m'adressant la parole, n'admirez-vous pas les scrupules qu'il se fait? Vive Dieu! C'est bien à la cour qu'il y faut regarder de si près. Sous quelque vilaine forme que la fortune s'y présente, on ne la laisse point échapper. » J'applaudis à ce que dit Pédrille, et nous harangâmes si bien tous deux le capitaine que nous le fîmes, malgré lui, devenir oncle de Sirena. Quand nous eûmes gagné cela sur son orgueil, ce qui ne nous fut pas aisé, nous nous mîmes tous trois à faire pour le ministre un nouveau placé, qui fut revu, augmenté et corrigé. Je l'écrivis ensuite proprement, et Pédrille le porta à l'aragonaise, qui, dès le soir même, en chargea le seigneur Don Rodrigue, à qui elle parla de façon que ce secrétaire, la croyant véritablement nièce du capitaine, promit de s'employer pour lui. Peu de jours après, nous vîmes l'effet de cette manœuvre. Pédrille revint à notre hôtel d'un air triomphant. « Bonne nouvelle, » dit-il à Chinchilla. « Le roi fera une distribution de commanderies, de bénéfices et de pensions, où vous ne serez pas oubliés. C'est de quoi je suis chargé de vous assurer. Mais j'ai ordre de vous demander en même temps quel présent vous prétendez faire à Sirena. Pour moi, je vous déclare que je ne veux rien. Je préfère à tout l'or du monde le plaisir d'avoir contribué à améliorer la fortune de mon ancien maître. Il n'en est pas de même de notre nymphe d'Albarazin. Elle est un peu juive lorsqu'il s'agit d'obliger le prochain. Elle a ce petit défaut-là. Elle prendrait l'argent de son propre père. Jugez si elle refusera celui d'un oncle supposé.
Elle n'a qu'à dire ce qu'elle exige de moi, répondit Don Hannibal. Si elle veut tous les ans le tiers de la pension que j'obtiendrai, je le lui promets. Et cela doit lui suffire, quand il s'agirait de tous les revenus de Sa Majesté catholique.
Je me fierai bien à votre parole, moi, répliqua le mercure de Don Rodrigue. Je sais bien qu'elle vaut le jeu, mais vous avez affaire à une petite personne naturellement fort défiante. D'ailleurs, elle aimera beaucoup mieux que vous lui donniez, une fois pour toutes, les deux tiers d'avance en argent comptant.
Et où diable veut-elle que je les prenne ? Interrompit brusquement l'officier.
Me croit-elle un contador major ? Il faut que vous ne l'ayez pas instruite de ma situation.
Pardonnez-moi, repartit Pédrille. Elle sait bien que vous êtes plus gueux que Job. Après ce que je lui ai dit, elle ne saurait l'ignorer.
Mais ne vous mettez pas en peine. Je suis un homme fertile en expédients. Je connais un vieux coquin doigt d'or qui se plaît à prêter ses espèces à 10%. Vous lui ferez par devant notaire un transport avec garantie de la première année de votre pension pour pareille somme que vous reconnaîtrez avoir reçue de lui et que vous toucherez en effet à l'intérêt près. À l'égard de la garantie, le prêteur se contentera de votre château de Chinchilla tel qu'il est. Vous n'aurez point de dispute là-dessus.
Le capitaine protesta qu'il accepterait ces conditions s'il était assez heureux pour avoir quelque part aux grâces qui seraient distribuées le lendemain. Ce qui ne manqua pas d'arriver. Il fut gratifié d'une pension de 300 pistoles sur une commanderie. Aussitôt qu'il eut appris cette nouvelle, il donna toutes les sûretés qu'on exigea de lui, fit ses petites affaires et s'en retourna dans la Castille nouvelle avec quelques pistoles de reste.
Chapitre 13. Gil Blas rencontre à la cour son cher ami Fabrice, grande joie de part et d'autre, où ils allèrent tous deux, et de la curieuse conversation qu'ils eurent ensemble.
« Je m'étais fait une habitude d'aller tous les matins chez le roi, où je passais 2 ou 3 heures entières à voir entrer et sortir les grands, qui me paraissaient là sans cet éclat dont ils sont ailleurs environnés. Un jour que je me promenais et me carrais dans les appartements, y faisant, comme beaucoup d'autres, une assez sotte figure, j'aperçus Fabrice, que j'avais laissé à Valladolid au service d'un administrateur d'hôpital. Ce qui m'étonna, c'est qu'il s'entretenait familièrement avec le duc de Medina Sidonia et le marquis de Sainte-Croix. Ces deux seigneurs, à ce qu'il me semblait, prenaient plaisir à l'entendre. Avec cela, il était vêtu aussi proprement qu'un noble cavalier.
« Ne me tromperai-je point ? » disais-je en moi-même. « Est-ce bien là le fils du barbier Nunez ? C'est peut-être quelque jeune courtisan qui lui ressemble. »
Je ne demeurai pas longtemps dans le doute. Les seigneurs s'en allèrent, j'abordai Fabrice. Il me reconnut dans le moment, me prit par la main, et après m'avoir fait percer la foule avec lui pour sortir des appartements, « Mon cher Gil Blas !» me dit-il en m'embrassant. « Je suis ravi de te revoir. Que fais-tu à Madrid ? As-tu quelque charge à la cour ? Dans quel état sont tes affaires ? Rends-moi compte de tout ce qui t'est arrivé depuis ton départ précipité de Valladolid. »
« Tu me demandes bien des choses à la fois, » lui répondis-je, « et nous ne sommes pas dans un lieu propre à conter des aventures. »«
Tu as raison, » reprit-il. « Nous serons mieux chez moi. Viens, je vais t'y mener. »
« Ce n'est pas loin d'ici. Je suis libre, agréablement logé, parfaitement bien dans mes meubles. Je vis content et suis heureux, puisque je crois l'être. »
J'acceptai le parti et me laissai entraîner par Fabrice, qui me fit arrêter devant une maison de belle apparence, où il me dit qu'il demeurait. Nous traversâmes une cour, où il y avait d'un côté un grand escalier qui conduisait à des appartements superbes,
et de l'autre une petite montée, aussi obscure qu'étroite, par où nous montâmes au logement qui m'avait été vanté. Il consistait en une seule chambre, de laquelle mon ingénieux ami s'en était fait quatre séparées par des cloisons de sapin. La première servait d'antichambre à la seconde où il couchait, il faisait son cabinet de la troisième et sa cuisine de la dernière. La chambre et l'antichambre étaient tapissées de cartes géographiques, de thèses de philosophie, et les meubles répondaient à la tapisserie. C'était un grand lit de brocart, tout usé, de vieilles chaises de serge jaune, garnies d'une frange de soie de grenade de la même couleur, une table à pied doré, couverte d'un cuir qui paraissait avoir été rouge, et bordée d'une crépine de faux or, devenue noire par le laps de temps, avec une armoire d'ébène, ornée de figures grossièrement sculptées. Il avait pour bureau, dans son cabinet, une petite table, et sa bibliothèque était composée de quelques livres avec plusieurs liasses de papier qu'on voyait sur des ais disposés par étages le long du mur. Sa cuisine, qui ne déparait pas le reste, contenait de la poterie et d'autres ustensiles nécessaires. Fabrice, après m'avoir donné le loisir de considérer son appartement, me dit « Et que penses-tu de mon ménage et de mon logement? N'en es-tu pas enchanté ?»« Oui, ma foi, » lui répondis-je en souriant. « Il faut que tu ne fasses pas mal tes affaires à Madrid pour y être si bien nippé. Tu as sans doute quelques commissions. »«
Le ciel m'en préserve, » répliqua-t-il. « Le parti que j'ai pris est au-dessus de tous les emplois. »
Un homme de distinction, à qui cet hôtel appartient, m'y a donné une chambre dont j'ai fait quatre pièces que j'ai meublées, comme tu vois. Je ne m'occupe que de choses qui me font plaisir, et je ne sens pas la nécessité.
« Parle-moi plus clairement, » interrompis-je. « Tu irrites l'envie que j'ai d'apprendre ce que tu fais. »«
Eh bien, » me dit-il, « je vais te contenter. Je suis devenu auteur. » Je me suis jeté dans le bel esprit. J'écris en vers et en prose. Je suis au poil et à la plume.
« Toi, favori d'Apollon ? » m'écriai-je en riant. « Voilà ce que je n'aurais jamais deviné. Je serais moins surpris de te voir tout autre chose. Quel charme as-tu donc pu trouver dans la condition des poètes ? Il me semble que ces gens-là sont méprisés dans la vie civile et qu'ils n'ont pas un ordinaire réglé.
Eh, fille, s'écria-t-il à son tour, tu me parles de ces misérables auteurs dont les ouvrages sont le rebut des libraires et des comédiens. Faut-il s'étonner si l'on n'estime pas de semblables écrivains? Mais les bons, mon ami, sont sur un meilleur pied dans le monde, et je puis dire sans vanité que je suis du nombre de ceux-ci.
Je n'en doute pas, lui dis-je, tu es un garçon plein d'esprit. Ce que tu composes ne doit pas être mauvais. Je ne suis en peine que de savoir comment la rage d'écrire a pu te prendre. Cela me paraît digne de ma curiosité.
Ton étonnement est juste, reprit Nunez. J'étais si content de mon état chez le seigneur Manuel Ordonez que je n'en souhaitais pas d'autre. Mais mon génie s'élevant peu à peu, comme celui de Plaute, au-dessus de la servitude, je composai une comédie que je fis représenter par des comédiens qui jouaient à Valladolid. Quoiqu'elle ne valût pas le diable, elle eut un fort grand succès. Je jugeai par là que le public était une bonne vache à lait qui se laissait aisément traire. Cette réflexion et la fureur de faire de nouvelles pièces me détachèrent de l'hôpital. L'amour de la poésie m'ôta celui des richesses. Je résolus de me rendre à Madrid, comme au centre des beaux esprits, pour y former mon goût. Je demandai mon congé à l'administrateur, qui ne me le donna qu'à regret, tant il avait d'affection pour moi. « Fabrice, me dit-il, pourquoi veux-tu me quitter? T'aurais-je donné, sans y penser, quelques sujets de mécontentement ?»«
Non, lui répondis-je, seigneur, vous êtes le meilleur de tous les maîtres, et je suis pénétré de vos bontés. » « Mais vous savez qu'il faut suivre son étoile. Je me sens né pour éterniser mon nom par des ouvrages d'esprit. »«
Quelle folie !» me répliqua ce bon bourgeois. « Tu as déjà pris racine à l'hôpital.
Tu es du bois dont on fait les économes, et quelquefois même les administrateurs. Tu veux quitter le solide pour t'occuper de fadaises. Tant pis pour toi, mon enfant. » L'administrateur, voyant qu'il combattait inutilement mon dessein, me paya mes gages et me fit présent d'une 50aine de ducats pour reconnaître mes services. De manière qu'avec cela et ce que je pouvais avoir grappillé dans les petites commissions dont on avait chargé mon intégrité, je fus en état, en arrivant à Madrid, de me mettre proprement. Ce que je ne manquais pas de faire, quoique les écrivains de notre nation ne se piquent guère de propreté. Je connus bientôt Lope de Vega Carpio, Miguel Cervantes de Saavedra et les autres fameux auteurs. Mais préférablement à ces grands hommes, je choisis pour mon précepteur un jeune bachelier cordouan, l'incomparable Don Luis de Gongora, le plus beau génie que l'Espagne ait jamais produit. Il ne veut pas que ses ouvrages soient imprimés de son vivant, il se contente de les lire à ses amis. Ce qu'il a de particulier, c'est que la nature l'a doué du rare talent de réussir dans toutes sortes de poésies. Il excelle principalement dans les pièces satiriques. Voilà son fort. Ce n'est pas, comme Lucilius, un fleuve bourbeux qui entraîne avec lui beaucoup de limons. C'est le Tage qui roule des eaux pures sur un sable d'or. « Tu me fais, dis-je à Fabrice, un beau portrait de ce bachelier, et je ne doute pas qu'un personnage de ce mérite-là n'ait bien des envieux. » « Tous les auteurs, répondit-il, tant bons que mauvais, se déchaînent contre lui. »« Il aime l'enflure, dit l'un, les pointes, les métaphores et les transpositions. »« Sévère, dit un autre, ont l'obscurité de ceux que les prêtres saliens chantaient dans leurs processions et que personne n'entendait. »« Il y en a même qui lui reprochent de faire tantôt des sonnets et des romances, tantôt des comédies, des dizains et des litrilles. » comme s'il avait follement entrepris d'effacer les meilleurs écrivains dans tous les genres. Mais tous ces traits de jalousie ne font que s'émousser contre une muse chérie des grands et de la multitude. C'est donc sous un si habile maître que j'ai fait mon apprentissage, et j'ose dire sans vanité qu'il y paraît. J'ai si bien pris son esprit que je compose déjà des morceaux abstraits qu'il avouerait. Je vais, à son exemple, débiter ma marchandise dans les grandes maisons où l'on me reçoit à merveille et où j'ai affaire à des gens qui ne sont pas fort difficiles. Il est vrai que j'ai le débit séduisant, ce qui ne nuit pas à mes compositions. Enfin, je suis aimé de plusieurs seigneurs et je vis surtout avec le duc de Medina Sidonia, comme Horace vivait avec Mécénas. Voilà, poursuivit Fabrice, de quelle manière j'ai été métamorphosé en auteur. Je n'ai plus rien à te conter. C'est à toi, Gil Blas, à chanter tes exploits. Alors je pris la parole, et supprimant toute circonstance indifférente, je lui fis le détail qu'il demandait. Après cela, il fut question de dîner. Il tira de son armoire d'ébène, des serviettes, du pain, un reste d'épaule de mouton rôti, une bouteille d'excellent vin, et nous nous mîmes à table avec toute la gaieté de deux amis qui se rencontrent après une longue séparation. « Tu vois, me dit-il, ma vie libre et indépendante. Si je voulais suivre l'exemple de mes confrères, j'irais tous les jours manger chez les personnes de qualité. Mais, outre que l'amour du travail me retient souvent au logis, je suis un petit Aristippe. Je m'accommode également du grand monde et de la retraite. » de l'abondance et de la frugalité. Nous trouvâmes le vin si bon qu'il fallut tirer de l'armoire une seconde bouteille. Entre la poire et le fromage, je lui témoignai que je serais bien aise de voir quelqu'une de ses productions. Aussitôt, il chercha parmi ses papiers un sonnet qu'il me lut d'un air emphatique. Néanmoins, malgré le charme de la lecture, je trouvai l'ouvrage si obscur que je n'y compris rien du tout. Il s'en aperçut. « Ce sonnet, me dit-il, ne te paraît pas fort clair, n'est-ce pas ?» Je lui avouai que j'y aurais voulu un peu plus de netteté. Il se mit à rire à mes dépens. « Si ce sonnet, reprit-il, n'est guère intelligible, tant mieux, mon ami,
Les sonnets, les odes et les autres ouvrages qui veulent du sublime ne s'accommodent pas du simple et du naturel. C'est l'obscurité qui en fait tout le mérite. Il suffit que le poète croie s'y entendre.
« Tu te moques de moi ? » interrompis-je.
« Il faut du bon sens et de la clarté dans toutes les poésies, de quelque nature qu'elles soient. Et si ton incomparable Gongora n'écrit pas plus clairement que toi, je t'avoue que j'en rabats bien. C'est un poète qui ne peut tout au plus tromper que son siècle. Voyons présentement de ta prose. »
Nunez me fit voir une préface qu'il prétendait, disait-il, mettre à la tête d'un recueil de comédies qu'il avait sous la presse. Ensuite, il me demanda ce que j'en pensais.
« Je ne suis pas, lui dis-je, plus satisfait de ta prose que de tes vers. Ton sonnet n'est qu'un pompeux galimatia, et il y a dans ta préface des expressions trop recherchées, des mots qui ne sont point marqués au coin du public, des phrases entortillées, pour ainsi dire. En un mot, ton style est singulier. Les livres de nos bons et anciens auteurs ne sont pas écrits comme cela. »
« Pauvre ignorant !» s'écria Fabrice. « Tu ne sais pas que tout prosateur qui aspire aujourd'hui à la réputation d'une plume délicate affecte cette singularité de style, ces expressions détournées qui te choquent. Nous sommes 5 ou 6 novateurs hardis qui avons entrepris de changer la langue du blanc au noir, et nous en viendrons à bout, s'il plaît à Dieu, en dépit de Lope de Vega, de Cervantes et de tous les autres beaux esprits qui nous chicanent sur nos nouvelles façons de parler. Nous serons secondés par un nombre de partisans de distinction. Nous avons dans notre cabale jusqu'à des théologiens.
Après tout, continua-t-il, notre dessein est louable. Et le préjugé à part, nous valons mieux que ces écrivains naturels qui parlent comme le commun des hommes. Je ne sais pas pourquoi il y a tant d'honnêtes gens qui les estiment. Cela était fort bon à Athènes et à Rome, où tout le monde était confondu. Et c'est pourquoi Socrate dit à Alcibiade que le peuple est un excellent maître de langue. Mais à Madrid, nous avons un bon et un mauvais usage, et nos courtisans s'expriment autrement que nos bourgeois. Tu peux m'en croire. Enfin, notre style nouveau l'emporte sur celui de nos antagonistes. Je veux par un seul trait te faire sentir la différence, qu'il y a de la gentillesse de notre diction à la platitude de la leur. Ils diraient par exemple, tout uniment, « Les intermèdes embellissent une comédie. » Et nous, nous disons plus joliment, « Les intermèdes font beauté dans une comédie. » Remarque bien ce « font beauté ». En sens-tu tout le brillant, toute la délicatesse, tout le mignon ?
J'interrompis mon novateur par un éclat de rire.
« Va, Fabrice, lui dis-je, tu es un original avec ton langage précieux. »«
Et toi, me répondit-il, tu n'es qu'une bête avec ton style naturel. »«
Allez, poursuivit-il en m'appliquant ces paroles de l'archevêque de Grenade, allez trouver mon trésorier. » Qu'il vous compte 100 ducats et que le ciel vous conduise avec cette somme. Adieu, monsieur Gil Blas, je vous souhaite un peu plus de goût. Je renouvellerai mes riz à cette saillie. »
Et Fabrice, me pardonnant d'avoir parlé avec irrévérence de ses écrits, ne perdit rien de sa belle humeur. Nous achevâmes de boire notre seconde bouteille, après quoi nous nous levâmes de table, tous deux assez bien conditionnés. Nous sortîmes dans le dessein d'aller nous promener au Prado. Mais, en passant devant la porte d'un marchand de liqueurs, il nous prit fantaisie d'entrer chez lui. Il y avait ordinairement bonne compagnie dans cet endroit-là. Je vis, dans 2 salles séparées, des cavaliers qui s'amusaient différemment. Dans l'une, on jouait à la prime et aux échecs, et dans l'autre, 10 à 12 personnes étaient fort attentives à écouter 2 beaux esprits de profession qui disputaient. Nous n'eûmes pas besoin de nous approcher d'eux pour entendre qu'une proposition de métaphysique faisait le sujet de leur dispute, car ils parlaient avec tant de chaleur et d'emportement qu'ils avaient l'air de 2 possédés. Je m'imagine que si on leur eût mis sous le nez l'anneau d'Eléazar, on aurait vu sortir des démons par leurs narines.
« Eh bon Dieu !»
dis-je à mon compagnon. Quelle vivacité! Quel poumon! Ces disputeurs étaient nés pour être des crieurs publics. La plupart des hommes sont déplacés.
Oui, vraiment, répondit-il. Ces gens-ci sont apparemment de la race de Novius, ce banquier romain dont la voix s'élevait au-dessus du bruit des charretiers. Mais, ajouta-t-il, ce qui me dégoûterait le plus de leur discours, c'est qu'on en a les oreilles infructueusement étourdies. Nous nous éloignâmes de ces métaphysiciens bruyants, et par là, je fis avorter une migraine qui commençait à me prendre. Nous allâmes nous placer dans un coin de l'autre salle, d'où, en buvant des liqueurs rafraîchissantes, nous nous mîmes à examiner les cavaliers qui entraient et ceux qui sortaient. Nunez les connaissait presque tous. « Vive Dieu ! » s'écria-t-il. « La dispute de nos philosophes ne finira pas si tôt. Voici des troupes fraîches qui arrivent. Ces trois hommes qui entrent vont se mettre de la partie. Mais vois-tu ces deux originaux qui sortent ? Ce petit personnage basané, sec, et dont les cheveux plats et longs lui descendent par égale portion par devant et par derrière, s'appelle Don Julien de Villanuno. C'est un jaune oie d'or qui tranche du petit maître. Nous allâmes, un de mes amis et moi, dîner chez lui l'autre jour. Nous le surprîmes dans une occupation assez singulière. Il se divertissait dans son cabinet à jeter et à se faire apporter par un grand livrier les sacs d'un procès dont il est rapporteur et que le chien déchirait à belles dents. Ce licencié qui l'accompagne, cette face rubiconde, se nomme Don Chérubin Tonto. C'est un chanoine de l'église de Tolède, le plus imbécile mortel qu'il y ait au monde. Cependant, à son air riant et spirituel, vous lui donneriez beaucoup d'esprit. Il a des yeux brillants, avec un rire fin et malicieux. On dirait qu'il pense très finement. Lit-on devant lui un ouvrage délicat, il l'écoute avec une attention que vous croyez pleine d'intelligence. Et toutefois, il n'y comprend rien. Il était du repas chez l'Oie-d'Or. On y dit mille jolies choses, une infinité de bons mots. Don Chérubin ne parla pas, mais il applaudissait avec des grimaces et des démonstrations qui paraissaient supérieures aux saillies même qui nous échappaient. « Connais-tu, dis-je à Nunez, ces deux mal peignés qui, les coudes appuyés sur une table, s'entretiennent tout bas dans ce coin en se soufflant au nez leurs haleines ?»« Non, me répondit-il, ces visages-là me sont inconnus. Mais selon toutes les apparences, ce sont des politiques de café qui censurent le gouvernement. Considère ce gentil cavalier qui siffle en se promenant dans cette salle et en se soutenant tantôt sur un pied et tantôt sur un autre. » C'est Don Augustin Moreto, un jeune poète qui n'est pas né sans talent, mais que les flatteurs et les ignorants ont rendu presque fou. L'homme que tu vois qu'il aborde est un de ses confrères qui fait de la prose rimée et que Diane a aussi frappé. « Encore des auteurs !» s'écria-t-il en me montrant deux hommes d'épée qui entraient. « Il semble qu'ils se soient tous donné le mot pour venir ici passer en revue devant toi. » Tu vois Don Bernard d'Elangado et Don Sébastien de Villa Viciosa. Le premier est un esprit plein de fiel, un auteur né sous l'étoile de Saturne, un mortel malfaisant qui se plaît à haïr tout le monde et qui n'est aimé de personne. Pour Don Sébastien, c'est un garçon de bonne foi, un auteur qui ne veut rien avoir sur la conscience. Il a, depuis peu, mis au théâtre une pièce qui a eu une réussite extraordinaire, et il l'a fait imprimer pour n'abuser pas plus longtemps de l'estime du public. Le charitable élève de Gongora se préparait à continuer de m'expliquer les figures du tableau changeant que nous avions devant les yeux, lorsqu'un gentilhomme du duc de Medina Sidonia vint l'interrompre en lui disant « Seigneur Don Fabrizio, je vous cherchais pour vous avertir que monsieur le duc voudrait bien vous parler, il vous attend chez lui ». Nunez, qui savait qu'on ne peut satisfaire assez tôt un grand seigneur qui souhaite quelque chose, me quitta dans le moment même pour aller trouver son mécénas, me laissant fort étonné de l'avoir entendu traiter de don, et de le voir aussi devenu noble, en dépit de maître Chrysostome le barbier.
son père.
Chapitre 14. Fabrice place Gilles Blas auprès du comte Galliano, seigneur sicilien. J'avais trop envie de revoir Fabrice pour n'être pas chez lui le lendemain de grand matin. « Je donne le bonjour, lui dis-je en entrant, au seigneur Don Fabricio, la fleur ou plutôt le champignon de la noblesse asturienne. » À ces paroles, il se mit à rire. « Tu as donc remarqué, s'écria-t-il, qu'on m'a traité de Don. » « Oui, mon gentilhomme, lui répondis-je, et vous me permettrez de vous dire qu'hier, en me contant votre métamorphose, vous oubliâtes le meilleur. » « D'accord, répliqua-t-il, mais en vérité, si j'ai pris ce titre d'honneur, c'est moins pour contenter ma vanité que pour m'accommoder à celle des autres. Tu connais les Espagnols, ils ne font aucun cas d'un honnête homme, s'il a le malheur de manquer de bien et de naissance. Je te dirai de plus que je vois tant de gens, et Dieu sait quelle sorte de gens, qui se font appeler « Don François, Don Gabriel, Don Pedro ou Don comme tu voudras, qu'il faut convenir que la noblesse est une chose bien commune et qu'un roturier qui a du mérite lui fait honneur quand il veut bien s'y agréger. Mais changeons de matière, ajouta-t-il. Et hier au soir, au souper du duc de Medina Sidonia, où, entre autres convives, était le comte Galliano, grand seigneur sicilien, la conversation tomba sur les effets ridicules de l'amour-propre. Charmé d'avoir de quoi réjouir la compagnie là-dessus, je la régalai de l'histoire des homélies. Tu t'imagines bien qu'on en a ri et qu'on en a donné de toutes les façons à ton archevêque. Ce qui n'a pas produit un mauvais effet pour toi, car on t'a plaint. Et le comte Galliano, après m'avoir fait force question sur ton chapitre, auquel tu peux croire que j'ai répondu comme il fallait, m'a chargé de te mener chez lui. J'allais te chercher tout à l'heure pour t'y conduire. Il veut apparemment te proposer d'être un de ses secrétaires. Je ne te conseille pas de rejeter ce parti. Tu seras parfaitement bien chez ce seigneur. Il est riche et fait à Madrid une dépense d'ambassadeur. On dit qu'il est venu à la cour pour conférer avec le duc de Lerme sur des biens royaux que ce ministre a dessein d'aliéner en Sicile. Enfin, le comte Galliano, quoique sicilien, paraît généreux, plein de droiture et de franchise. Tu ne saurais mieux faire que de t'attacher à ce seigneur-là. C'est lui probablement qui doit t'enrichir, suivant ce qu'on t'a prédit à Grenade. J'avais résolu, dis-je à Nunez, de battre un peu le pavé et de me donner du bon temps avant que de me remettre à servir. « Mais tu me parles du comte sicilien d'une manière qui me fait changer de résolution. Je voudrais déjà être auprès de lui. »« Tu y seras bientôt, » reprit-il, « ou je suis fort trompé. » Nous sortîmes en même temps tous deux pour aller chez le comte, qui occupait la maison de Don Sanche d'Avila, son ami, qui était alors à la campagne. Nous trouvâmes dans la cour je ne sais combien de pages et de laquais qui portaient une livrée aussi riche que galante, et dans l'antichambre, plusieurs écuyers, gentilshommes et autres officiers. Ils avaient tous des habits magnifiques, mais avec cela des faces si baroques que je crus voir une troupe de singes vêtus à l'espagnol. Il faut avouer qu'il y a des mines d'hommes et de femmes pour qui l'art ne peut rien. On annonça Don Fabricio, qui fut introduit un moment après dans la chambre où je le suivis. Le comte, en robe de chambre, était assis sur un sofa et prenait son chocolat. Nous le saluâmes avec toutes les démonstrations d'un profond respect. Il nous fit de son côté une inclination de tête, accompagnée de regards si gracieux que je me sentis d'abord gagner l'âme. Effet admirable et pourtant ordinaire que fait sur nous l'accueil favorable des grands. Il faut qu'ils nous reçoivent bien mal quand ils nous déplaisent. Ce seigneur, après avoir pris son chocolat, s'amusa quelque temps à badiner avec un gros singe qu'il avait auprès de lui et qu'il appelait Cupidon. Je ne sais pourquoi on avait donné le nom de ce dieu à cet animal, si ce n'est à cause qu'il en avait toute la malice, car il ne lui ressemblait nullement d'ailleurs. Il ne laissait pas, tel qu'il était, de faire les délices de son maître,
qui était si charmé de ses gentillesses qu'il le tenait sans cesse dans ses bras. Nunez et moi, quoique peu divertis des gambades du singe, nous fîmes semblant d'en être enchantés. Cela plut fort au Sicilien, qui suspendit le plaisir qu'il prenait à ce passe-temps pour me dire « Mon ami, il ne tiendra qu'à vous d'être un de mes secrétaires. Si le parti vous convient, je vous donnerai 200 pistoles tous les ans. Il suffit que Don Fabrizio vous présente et réponde de vous. » « Oui, seigneur, s'écria Nunez, je suis plus hardi que Platon qui n'osait répondre d'un de ses amis qu'il envoyait à Denis le tyran. Je ne crains pas de m'attirer des reproches. » Je remerciai par une révérence le poète des Asturies de sa hardiesse obligeante. Puis, m'adressant au patron, je l'assurai de mon zèle et de ma fidélité. Ce seigneur ne vit pas plus tôt que sa proposition m'était agréable, qu'il fit appeler son intendant, à qui il parla tout bas. Ensuite, il me dit « Gil Blas, je vous apprendrai tantôt à quoi je prétends vous employer. Vous n'avez en attendant qu'à suivre mon homme d'affaires. Il vient de recevoir des ordres qui vous regardent. » J'obéis, laissant Fabrice avec le comte et Cupidon. L'intendant, qui était un Messinois des plus fins, me conduisit à son appartement en m'accablant d'honnêteté. Il envoya chercher le tailleur, qui avait habillé toute la maison, et lui ordonna de me faire promptement un habit de la même magnificence que ceux des principaux officiers. Le tailleur prit ma mesure et se retira. « Pour votre logement, me dit le Messinois, je sais une chambre qui vous conviendra. »« Et avez-vous déjeuné ? » poursuivit-il. Je répondis que non. « Ah, pauvre garçon que vous êtes !» reprit-il. « Que ne parlez-vous ? Vous êtes ici dans une maison où il n'y a qu'à dire ce qu'on souhaite pour l'avoir. Venez, je vais vous mener dans un endroit où, grâce au ciel, rien ne manque. » À ces mots, il me fit descendre à l'office, où nous trouvâmes le maître d'hôtel, qui était un Napolitain qui valait bien un Messinois. On pouvait dire de lui et de l'intendant « Jean danse mieux que Pierre, Pierre danse mieux que Jean. » Cet honnête maître d'hôtel était avec 5 ou 6 de ses amis qui s'empiffraient de jambon, de langue de bœuf et d'autres viandes salées qui les obligeaient à boire coup sur coup. Nous nous joignîmes à ces vivants et les aidâmes à fesser les meilleurs vins de monsieur le comte. Pendant que ces choses se passaient à l'office, il s'en passait d'autres à la cuisine. Le cuisinier régalait aussi 3 ou 4 bourgeois de sa connaissance, qui n'épargnait pas plus que nous le vin, qui se remplissait l'estomac de pâté de lapin et de perdrix. Il n'y avait pas jusqu'aux marmitons qui ne se donnassent au cœur joie de tout ce qu'ils pouvaient escamoter. Je me crus dans une maison abandonnée au pillage. Cependant, ce n'était rien que cela. Je ne voyais que des bagatelles en comparaison de ce que je ne voyais pas. Chapitre 15. Des emplois que le comte Galliano donna dans sa maison à Gil Blas. Je sortis pour aller chercher mes hardes et les faire apporter à ma nouvelle demeure. Quand je revins, le comte était à table avec plusieurs seigneurs et le poète Nunez, lequel, d'un air aisé, se faisait servir et se mêlait à la conversation. Je remarquai même qu'il ne disait pas un mot qui ne fît plaisir à la compagnie. Vive l'esprit ! Quand on en a, on fait bien tous les personnages qu'on veut. Pour moi, je dînai avec les officiers qui furent traités à peu de choses près, comme le patron. Après le repas, je me retirai dans ma chambre où je me mis à réfléchir sur ma condition. « Eh bien, me dis-je, Gil Blas, te voilà donc auprès d'un comte sicilien dont tu ne connais pas le caractère. À juger sur les apparences, tu seras dans sa maison comme le poisson dans l'eau. Mais il ne faut jurer de rien, et tu dois te défier de ton étoile, dont tu n'as que trop souvent éprouvé la malignité. Outre cela, tu ignores à quoi il te destine. Il a des secrétaires et un intendant. Quel service veut-il donc que tu lui rendes ? Apparemment qu'il a dessein de te faire porter le caducé. À la bonne heure, on ne saurait être sur un meilleur pied chez un seigneur pour faire son chemin en poste. En rendant de plus honnêtes services, on ne marche que pas à pas, et encore n'arrive-t-on pas toujours à son but.
Tandis que je faisais de si belles réflexions, un laquais vint me dire que tous les cavaliers qui avaient dîné à l'hôtel venaient de sortir pour s'en retourner chez eux, et que monsieur le comte me demandait. Je volai aussitôt à son appartement, où je le trouvai couché sur un sofa et prêt à faire la sieste avec son singe qui était à côté de lui. « Approchez, Gil Blas, me dit-il. Prenez un siège et m'écoutez. » Je fis ce qu'il m'ordonnait et il me parla dans ces termes. « Don Fabricio m'a dit qu'entre autres bonnes qualités, vous aviez celle de vous attacher à vos maîtres et que vous étiez un garçon plein d'intégrité. Ces deux choses m'ont déterminé à vous proposer d'être à moi. J'ai besoin d'un domestique affectionné, qui épouse mes intérêts et met toute son attention à conserver mon bien. Je suis riche, à la vérité, mais ma dépense va tous les ans fort au-delà de mes revenus. Et pourquoi? C'est qu'on me vole, c'est qu'on me pille. Je suis dans ma maison comme dans un bois rempli de voleurs. Je soupçonne mon maître d'hôtel et mon intendant de s'entendre ensemble. Et si je ne me trompe point, en voilà plus qu'il n'en faut pour me ruiner de faute en comble. Vous me direz que, si je les crois fripons, je n'ai qu'à les chasser. Mais où en prendre d'autres qui soient pétris d'un meilleur limon? Il faut donc que je me contente de les faire observer l'un et l'autre par un homme qui ait droit d'inspection sur leur conduite. C'est vous, Gil Blas, que je choisis pour remplir cette commission. Si vous vous en acquittez bien, soyez sûr que vous ne servirez pas un ingrat. J'aurai soin de vous établir en Sicile très avantageusement. » Après m'avoir tenu ce discours, il me renvoya. Et dès le soir même, devant tous les domestiques, je fus proclamé surintendant de la maison. Le Messinois et le Napolitain n'en furent pas d'abord fort mortifiés, parce que je leur paraissais un gaillard de bonne composition, et qu'ils comptaient qu'en partageant avec moi le gâteau, ils iraient toujours leur train. Mais ils se trouvèrent bien sots le jour suivant, lorsque je leur déclarai que j'étais un homme ennemi de toute malversation. Je demandai au maître d'hôtel un état des provisions, je visitai la cave, je pris connaissance de tout ce qu'il y avait dans l'office, je veux dire de l'argenterie et du linge. Je les exhortai ensuite tous deux à ménager le bien du patron, à user d'épargne dans la dépense, et je finis mon exhortation en leur protestant que j'avertirai ce seigneur de toutes les mauvaises manœuvres que je verrai faire chez lui. Je n'en demeurai pas là. Je voulus avoir un espion pour découvrir s'il y avait de l'intelligence entre eux. Je jetai les yeux sur un marmiton qui, s'étant laissé gagner par mes promesses, me dit que je ne pouvais mieux m'adresser qu'à lui pour être instruit de tout ce qui se passait au logis. Que le maître d'hôtel et l'intendant étaient d'accord ensemble et brûlaient la chandelle par les deux bouts, qu'ils détournaient tous les jours la moitié des viandes qu'on achetait pour la maison, que le Napolitain avait soin d'une dame qui demeurait vis-à-vis le collège de Saint-Thomas et que le Messinois en entretenait une autre à la porte du soleil, que ces deux messieurs faisaient porter tous les matins chez leur nymphe toutes sortes de provisions, que le cuisinier de son côté envoyait de bons plats à une veuve qu'il connaissait dans le voisinage, et qu'en faveur des services qu'il rendait aux deux autres, à qui il était tout dévoué, il disposait comme eux des vins de la cave. Enfin, que ces trois domestiques étaient cause qu'il se faisait une dépense horrible chez monsieur le comte. « Si vous doutez de mon rapport, ajouta le marmiton, donnez-vous la peine de vous trouver demain matin sur les 7 heures auprès du collège de Saint-Thomas. Vous me verrez chargé d'une hotte qui changera votre doute en certitude. « Tu es donc, lui dis-je, commissionnaire de ces galants pourvoyeurs ?»« Je suis, répondit-il, employé par le maître d'hôtel, et un de mes camarades fait les messages de l'intendant. » Ce rapport me parut valoir la peine d'être vérifié. J'eus la curiosité le lendemain de me rendre à l'heure marquée auprès du collège de Saint-Thomas. Je n'attendis pas longtemps mon espion. Je le vis bientôt arriver avec une grande hotte, toute pleine de viande de boucherie, de volaille et de gibier. Je fis l'inventaire des pièces et j'en dressai sur mes tablettes un petit procès-verbal que j'allais montrer à mon maître, après avoir dit au fouille au pot
qu'il pouvait, comme à son ordinaire, s'acquitter de sa commission. Le seigneur sicilien, qui était fort vif de son naturel, voulut dans son premier mouvement chasser le napolitain et le messinois. Mais, après y avoir fait réflexion, il se contenta de se défaire du dernier, dont il me donna la place. Ainsi, ma charge de surintendant fut supprimée peu de temps après sa création, et franchement, je n'y eus point de regret. Ce n'était à proprement parler qu'un emploi honorable d'espion, qu'un poste qui n'avait rien de solide, au lieu qu'en devenant monsieur l'intendant, je me voyais maître du coffre-fort, et c'est là le principal. C'est toujours ce domestique-là qui tient le premier rang dans une grande maison. Et il y a tant de petits bénéfices attachés à son administration qu'il s'enrichirait infailliblement, quand même il serait honnête homme. Mon napolitain, qui n'était pas au bout de ses finesses, remarquant que j'avais un zèle brutal et que je me mettais sur le pied de voir tous les matins les viandes qu'il achetait et d'en tenir registre, cessa d'en détourner. Mais le bourreau continua d'en prendre la même quantité chaque jour. Par cette ruse, augmentant le profit qu'il tirait de la desserte de la table qui lui appartenait de droit, il se mit en état d'envoyer du moins de la viande cuite à sa mignonne s'il ne pouvait plus lui en fournir de crue. Le diable n'y perdait rien, et le comte n'était guère plus avancé d'avoir le phénix des intendants. L'abondance excessive que je vis alors régner dans les repas me fit deviner ce nouveau tour, et j'y mis bon ordre aussitôt, en retranchant le superflu de chaque service. Ce que je fis toutefois avec tant de prudence qu'on n'y aperçut point un air d'épargne. On eût dit que c'était toujours la même profusion. Et néanmoins, par cette économie, je ne laissais pas de diminuer considérablement la dépense. Voilà ce que le patron demandait. Il voulait ménager sans paraître moins magnifique. Son avarice était subordonnée à son ostentation. Je n'en demeurai point là. Je réformai un autre abus. Trouvant que le vin allait bien vite, je soupçonnai qu'il y avait encore de la tricherie de ce côté-là. Effectivement, s'il y avait, par exemple, 12 cavaliers à la table du seigneur, il se buvait 50 et quelquefois jusqu'à 60 bouteilles. Cela m'étonnait. Je consultai là-dessus mon oracle, c'est-à-dire mon marmiton, avec qui j'avais des entretiens secrets, et qui me rapportait fidèlement tout ce qui se disait et se faisait dans la cuisine, où il n'était suspect à personne. Il m'apprit que le dégât dont je me plaignais venait d'une nouvelle ligue faite entre le maître d'hôtel, le cuisinier et les laquais qui versaient à boire, que ceux-ci remportaient les bouteilles à demi-pleines qui se partageaient ensuite entre les confédérés. Je parlais aux laquais, je les menaçais de les mettre à la porte s'ils s'avisaient de récidiver, et il n'en fallut pas davantage pour les faire rentrer dans leurs devoirs. Mon maître, que j'avais grand soin d'informer des moindres choses que je faisais pour son bien, me comblait de louanges et prenait de jour en jour plus d'affection pour moi. De mon côté, pour récompenser le marmiton qui me rendait de si bons offices, je le fis aide de cuisine. C'est ainsi que dans les bonnes maisons, un fidèle domestique fait son chemin. Le napolitain enrageait de me rencontrer partout, et ce qui le mortifiait cruellement, c'était les contradictions qu'il avait à essuyer de ma part toutes les fois qu'il s'agissait de me rendre ses comptes. Car, pour mieux lui rogner les ongles, je me donnais la peine d'aller dans les marchés pour savoir le prix des denrées, de sorte que je le voyais venir après cela. Et comme il ne manquait pas de venir ferrer la mule, je le relançais vigoureusement. J'étais bien persuadée qu'il me maudissait 100 fois le jour. Mais le sujet de ses malédictions m'empêchait de craindre qu'elles ne fussent exaucées. Je ne sais comment il pouvait résister à mes persécutions et ne pas quitter le service du seigneur sicilien. Sans doute que, malgré tout cela, il y trouvait son compte. Fabrice, que je voyais de temps en temps, et à qui je comptais toutes mes prouesses d'intendant jusqu'alors inouïes, était plus disposé à blâmer ma conduite qu'à l'approuver. « Dieu veuille, me dit-il un jour, qu'après tout ceci, ton désintéressement soit bien récompensé. Mais entre nous,
si tu n'étais pas si raide avec le maître d'hôtel. Je crois que tu n'en ferais pas plus mal.
« Eh quoi ? »
lui répondis-je. « Ce voleur mettra effrontément dans un état de dépense à 10 pistoles un poisson qui ne lui en aura coûté que 4. Et tu veux que je lui passe cet article ?»«
Pourquoi non ? »
répliqua-t-il froidement. « Il n'a qu'à te donner la moitié du surplus, et il fera les choses dans les règles. Sur ma foi, notre ami, continua-t-il en branlant la tête, pour un homme d'esprit, vous vous y prenez bien mal. » « Vous êtes un vrai gâte-maison, et vous avez bien la mine de servir longtemps, puisque vous n'écorchez pas l'anguille pendant que vous la tenez. Apprenez que la fortune ressemble à ces coquettes, vives et légères, qui échappent aux galants qui ne les brusquent pas. » Je ne fis que rire des discours de Nunez. Il en rit lui-même à son tour, et voulut me persuader qu'il ne me les avait pas tenus sérieusement. Il avait honte de m'avoir donné inutilement un mauvais conseil. Je demeurai ferme dans la résolution d'être toujours fidèle et zélé. Je ne me démentis point, et j'ose dire qu'en 4 mois, par mon épargne, je fis profit à mon maître de 3 000 ducats pour le moins. Chapitre 16. De l'accident qui arriva au singe du comte Galliano, du chagrin qu'en eut ce seigneur, comment Gil Blas tomba malade et quelle fut la suite de sa maladie. Au bout de ce temps-là, le repos qui régnait à l'hôtel fut étrangement troublé par un accident qui ne paraîtra qu'une bagatelle au lecteur et qui devint pourtant une chose fort sérieuse pour les domestiques et surtout pour moi. Cupidon, ce singe dont j'ai parlé, cet animal si chéri du patron, en voulant un jour sauter d'une fenêtre à une autre, s'en acquitta si mal qu'il tomba dans la cour et se démit une jambe. Le comte ne sut pas sitôt ce malheur qu'il poussa des cris comme une femme. Et, dans l'excès de sa douleur, s'en prenant à tous ses gens sans exception, peu s'en fallut qu'il ne fît maison nette. Il borna toutefois sa fureur à maudire notre négligence et à nous apostropher sans ménager les termes. Il envoya chercher sur le champ les chirurgiens de Madrid les plus habiles pour les fractures et les dislocations des os. Ils visitèrent la jambe du blessé, la lui remirent et la bandèrent. Mais quoiqu'ils assurassent tous que ce n'était rien, cela n'empêcha pas que mon maître ne retint un d'entre eux pour demeurer auprès de l'animal jusqu'à parfaite guérison. J'aurais tort de passer sous silence les peines et les inquiétudes qu'eut le seigneur sicilien pendant tout ce temps-là. Croira-t-on bien que le jour il ne quittait point son cher Cupidon ? Il était présent quand on le pensait, et la nuit il se levait 2 ou 3 fois pour le voir. Ce qu'il y avait de plus fâcheux, c'est qu'il fallait que tous les domestiques, et moi principalement, nous fussions toujours sur pied pour être prêts à courir où l'on jugerait à propos de nous envoyer pour le service du singe. En un mot, nous n'eûmes aucun repos dans l'hôtel jusqu'à ce que la maudite bête, ne se ressentant plus de sa chute, se remît à faire ses bonds et ses culbutes ordinaires. Après cela, refuserons-nous d'ajouter foi au rapport de Suétone lorsqu'il dit que Caligula aimait son cheval, qu'il lui donna une maison richement meublée avec des officiers pour le servir, et qu'il en voulait même faire un consul. Mon patron n'était pas moins charmé de son singe. Il en aurait volontiers fait un corégidor. Ce qu'il y eut de plus malheureux pour moi, c'est que j'avais enchéri sur tous les valets pour mieux faire ma cour au seigneur, et je m'étais donné de si grands mouvements pour son Cupidon que j'en tombais malade. La fièvre me prit violemment, et mon mal devint tel que je perdis toute connaissance. J'ignore ce qu'on fit de moi pendant 15 jours que je fus entre la vie et la mort. Je sais seulement que ma jeunesse lutta si bien contre la fièvre, et peut-être contre les remèdes qu'on me donna, que je repris enfin mes sens. Le premier usage que j'en fis fut de m'apercevoir que j'étais dans une autre chambre que la mienne. Je voulus savoir pourquoi. Je le demandai à une vieille femme qui me gardait. Mais elle me répondit qu'il ne fallait pas que je parlasse, que le médecin l'avait expressément défendu. Quand on se porte bien, on se moque ordinairement de ses docteurs. Est-on malade ? On se soumet docilement à leurs ordonnances.
Je pris donc le parti de me taire, quelque envie que j'eusse de m'entretenir avec ma garde. Je faisais des réflexions là-dessus, lorsqu'il entra deux manières de petits maîtres fort lestes. Ils avaient des habits de velours, avec de très beaux linges garnis de dentelles. Je m'imaginais que c'étaient des seigneurs amis de mon maître, lesquels, par considération pour lui, me venaient voir. Dans cette pensée, je fis un effort pour me mettre à mon séant, et j'ôtai par respect mon bonnet. Mais ma garde me recoucha tout de mon long, en me disant que ces seigneurs étaient mon médecin et mon apothicaire. Le docteur s'approcha de moi, me tâta le pouls, observa mon visage, et remarquant tous les signes d'une prochaine guérison, il prit un air de triomphe, comme s'il y eût mis beaucoup du sien, et qu'il ne fallait plus qu'une médecine pour achever son ouvrage. Qu'après cela, il pourrait se vanter d'avoir fait une belle cure. Et quand il eut parlé de cette sorte, il fit décrire par l'apothicaire une ordonnance qu'il lui dicta en se regardant dans un miroir, en rajustant ses cheveux et en faisant des grimaces, dont je ne pouvais m'empêcher de rire, malgré l'état où j'étais. Ensuite, il me salua de la tête fort cavalièrement et sortit plus occupé de sa figure que des drogues qu'il avait ordonnées. Après son départ, l'apothicaire, qui n'était pas venu chez moi pour rien, se prépara, on juge bien à quoi faire. Soit qu'il craignît que la vieille ne s'en acquittât pas adroitement, soit pour mieux faire valoir la marchandise, il voulut opérer lui-même. Mais, avec toute son adresse, je ne sais comment cela se fit, l'opération fut à peine achevée que, rendant à l'opérant ce qu'il m'avait donné, je mis son habit de velours dans un bel état. Il regarda cet accident comme un malheur attaché à la pharmacie. Il prit une serviette, s'essuya sans dire un mot, et s'en alla, bien résolu de me faire payer le dégraisseur, à qui sans doute il fut obligé d'envoyer son habit. Il revint le lendemain matin, vêtu plus modestement, quoiqu'il n'eût rien à risquer ce jour-là, m'apportait la médecine que le docteur avait ordonnée la veille. Outre que je me sentais mieux de moment en moment, j'avais tant d'aversion depuis le jour précédent pour les médecins et les apothicaires que je maudissais jusqu'aux universités où ces messieurs reçoivent le pouvoir de tuer les hommes impunément. Dans cette disposition, je déclarai en jurant que je ne voulais plus de remède et que je donnais au diable Hippocrate et sa séquelle. L'apothicaire, qui ne se souciait nullement de ce que je ferais de sa composition pourvu qu'elle lui fût payée, la laissa sur la table et se retira sans me dire une syllabe. Je fis jeter sur le champ par les fenêtres cette chienne de médecine, contre laquelle je m'étais si fort prévenu que j'aurais cru être empoisonné si je l'eusse avalé. À ce trait de désobéissance, j'en ajoutai un autre. Je rompis le silence et dis d'un ton ferme à ma garde que je prétendais absolument qu'elle m'apprît des nouvelles de mon maître. La vieille, qui appréhendait d'exciter en moi une émotion dangereuse en me satisfaisant, ou qui peut-être aussi ne m'obstinait que pour irriter mon mal, hésitait à me parler. Mais je la pressais si vivement de m'obéir qu'elle me répondit enfin. « Seigneur cavalier, vous n'avez plus d'autre maître que vous-même. Le comte Galieno s'en est retourné en Sicile. » Je ne pouvais croire ce que j'entendais. Il n'y avait pourtant rien de plus véritable. Ce seigneur, dès le second jour de ma maladie, craignant que je ne mourusse chez lui, avait eu la bonté de me faire transporter avec mes petits effets dans une chambre garnie où il m'avait abandonné sans façon à la providence et aux soins d'une garde. Sur ces entrefaites, ayant reçu un ordre de la cour qui l'obligeait à repasser en Sicile, il était parti avec tant de précipitation qu'il n'avait plus songé à moi, soit qu'il me comptât déjà parmi les morts, soit que les personnes de qualité soient sujettes à ces fautes de mémoire. Ma garde me fit ce détail et m'apprit que c'était elle qui avait été chercher un médecin et un apothicaire, afin que je ne périsse pas sans leur assistance. Je tombai dans une profonde rêverie à ces belles nouvelles. Adieu mon établissement avantageux en Sicile! Adieu mes plus douces espérances! Quand il vous arrivera quelque grand malheur, dit un pape, examinez-vous bien
et vous verrez qu'il y aura toujours de votre faute. »
N'en déplaise à ce Saint-Père, je ne vois pas comment, dans cette occasion, je contribuais à mon infortune.
Lorsque je vis évanouir les flatteuses chimères dont je m'étais rempli la tête, la première chose dont je m'embarrassai l'esprit fut ma valise, que je fis apporter sur mon lit pour la visiter. Je soupirai en m'apercevant qu'elle était ouverte. « Hélas, ma chère valise, m'écriai-je, mon unique consolation. Vous avez été à ce que je vois à la merci des mains étrangères. »
« Non, non, seigneur Gil Blas, me dit alors la vieille. Rassurez-vous, on ne vous a rien volé. J'ai conservé votre mal comme mon honneur. »
J'y trouvai l'habit que j'avais en entrant au service du comte, mais j'y cherchai vainement celui que le Messinois m'avait fait faire. Mon maître n'avait pas jugé à propos de me le laisser, ou bien quelqu'un se l'était approprié. Toutes mes autres hardes y étaient, et même une grande bourse de cuir qui renfermait mes espèces. Je l'ai comptée deux fois, ne pouvant croire, la première, qu'il n'y eut que 50 pistoles de reste de 260 qu'il y avait dedans avant ma maladie.
« Que signifie ceci, ma bonne mère ? » dis-je à ma garde. « Voilà mes finances bien diminuées. »«
Pourtant, personne n'y a touché que moi, » répondit la vieille, « et je les ai ménagées autant qu'il m'a été possible. » Mais les maladies coûtent beaucoup. Il faut toujours avoir l'argent à la main.
Voici, ajouta cette bonne ménagère en tirant de sa poche un paquet de papier. Voici un état de dépenses qui est juste comme l'or et qui vous fera voir que je n'ai pas envoyé un denier mal à propos. Je parcourus des yeux le mémoire qui contenait bien 15 ou 20 pages. Miséricorde ! Que de volailles achetées pendant que j'étais en connaissance ! Il fallait qu'en bouillon seulement, il y eût pour le moins 12 pistoles. Les autres articles répondaient à celui-là. On ne saurait dire combien elle avait dépensé en bois, en chandelles, en eau, en balais, etc. Cependant, quelque enflé que fût son mémoire, toute la somme allait à peine à 30 pistoles, et par conséquent, il devait y en avoir encore 180 de reste. Je lui représentai cela, mais la vieille, d'un air ingénu, commença d'attester tous les saints qu'il n'y avait dans la bourse que 80 pistoles lorsque le maître d'hôtel du comte lui avait confié ma valise.
« Que dites-vous, ma bonne ? » interrompis-je avec précipitation. « C'est le maître d'hôtel qui vous a remis mes hardes entre les mains ?»«
Sans doute, répondit-elle, c'est lui. À telles enseignes qu'en me les donnant, il me dit « Tenez, bonne mère, quand le seigneur Gil Blas sera frit à l'huile, ne manquez pas de le régaler d'un bel enterrement. Il y a dans cette valise de quoi en faire les frais. »
Oh, maudit Napolitain ! M'écriai-je alors.
Je ne suis plus en peine de savoir ce qui est devenu l'argent qui me manque. Vous l'avez raflé pour récompenser une partie des vols que je vous ai empêché de faire. Après cette catastrophe, je rendis grâce au ciel de ce que le fripon ne m'avait pas tout emporté.
Quelque sujet pourtant que j'eusse d'accuser le maître d'hôtel de m'avoir volé, je ne laissais pas de penser que ma garde pouvait fort bien être la voleuse. Mes soupçons tombaient tantôt sur l'un et tantôt sur l'autre, mais c'était toujours la même chose pour moi. Je n'en témoignais rien à la vieille. Je ne la chicanais pas, même sur les articles de son beau mémoire. Je n'aurais rien gagné à cela. Il faut bien que chacun fasse son métier. Je bornais mon ressentiment à la payer et à la renvoyer 3 jours après. Je m'imagine qu'en sortant de chez moi, elle alla donner avis à l'apothicaire qu'elle venait de me quitter et que je me portais assez bien pour prendre la clé des champs sans compter avec lui. Car un moment après, je le vis arriver tout essoufflé. Il me présenta son mémoire, dans lequel, sous des noms qui m'étaient inconnus, quoique j'eusse été médecin, il avait écrit tous les prétendus remèdes qu'il m'avait fournis dans le temps que j'étais sans sentiment. On pouvait appeler ce mémoire-là de vraie partie d'apothicaire. Aussi nous eûmes une dispute lorsqu'il fut question de paiement. Je prétendais qu'il rabattit la moitié de la somme qu'il demandait. Il jura qu'il n'en rabattrait pas même une obole. Considérant toutefois qu'il avait affaire à un jeune homme qui, dès ce jour-là, pouvait s'éloigner de Madrid, il aima mieux se contenter de ce que je lui offrais.
c'est-à-dire de 3 fois au-delà de ce que valaient ses drogues, que de s'exposer à perdre tout. Je lui lâchai des espèces à mon grand regret, et il se retira bien vengé du petit chagrin que je lui avais causé le jour du lavement. Le médecin parut presque aussitôt, car ces animaux-là sont presque toujours à la queue l'un de l'autre. J'escomptai ses visites, qui avaient été très fréquentes, et je le renvoyai content. Mais avant que de me quitter, pour me prouver qu'il avait bien gagné son argent, il me détailla les inconvénients mortels qu'il avait prévenus dans ma maladie, ce qu'il fit en fort beaux termes et d'un air agréable. Mais je n'y compris rien du tout. Lorsque je me fus défait de lui, je me crus débarrassé de tous les ministres des parcs. Je me trompais. Il entra un chirurgien que je n'avais jamais vu de ma vie. Il me salua fort civilement et me témoigna de la joie de me voir échapper du danger que j'avais couru. Ce qu'il attribuait, disait-il, à 2 saignées abondantes qu'il m'avait faites et aux ventouses qu'il avait eu l'honneur de m'appliquer. Autre plume qu'on me tira de l'aile. Il me fallut aussi cracher au bassin du chirurgien. Après tant d'évacuations, ma bourse se trouva si débile qu'on pouvait dire que c'était un corps confisqué, tant il y restait peu d'humide radical. Je commençais à perdre courage en me voyant retomber dans une situation misérable. Je m'étais, chez mes derniers maîtres, trop affectionné aux commodités de la vie. Je ne pouvais plus, comme autrefois, envisager l'indigence en philosophe cynique. J'avouerai pourtant que j'avais tort de me laisser aller à la tristesse. Après avoir tant de fois éprouvé que la fortune ne m'avait pas plutôt renversé qu'elle me relevait, je n'aurais dû regarder l'état fâcheux où j'étais que comme une occasion prochaine de prospérité. »